Radio Rythme Bleu, il est 6h30.
La 7, c'est 6 magasins pour vous accompagner dans tous vos projets. Construire, rénover, aménager. Retrouvez nos bons plans sur Facebook ou sur 7.nc.
Info matin, Nicolas Legrand.
Les provinciales n'auront pas lieu en 2024. Emmanuel Macron a annoncé son intention de décaler le scrutin. Le président de la République l'a dit aux quatre parlementaires calédoniens qu'il a rencontrés hier soir pour nous. L'actualité judiciaire avec une enquête ouverte pour violation de sépulture. C'est ce qu'annonce le procureur de la République Yves Dupas après la profanation du mausolée du grand chef Hatay. Pas d'interpellation pour le moment. L'actualité en métropole est un dîner de prestige sous la pyramide du Louvre. Emmanuel Macron a invité une soixantaine de chefs d'État, de sportifs et de chefs d'entreprise du monde entier. Le sport avec les Bleus du rugby à 7 qui débutent leur quart de finale des Jeux Olympiques en ce moment même. Ils affrontent l'Argentine. La météo en Nouvelle-Calédonie, le soleil est bien présent sur l'ensemble du territoire. Le vent de sud-est reste soutenu avec des rafales de 30 à 35 nœuds par endroit. Les températures remontent un peu avec 22 à 25 degrés du sud vers le nord.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, l'actualité politique.
Oui, et c'est une rencontre inédite qui a eu lieu hier soir pour nous à Paris où Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée les quatre parlementaires calédoniens, les députés Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tchibaou et les sénateurs Georges Naturel et Robert Rowy. Une rencontre d'une demi-heure dans un emploi du temps particulièrement chargé pour le chef de l'État. On en retient notamment le report des élections provinciales, l'invitation à Paris des partenaires politiques pour une reprise des discussions dès le mois de septembre et une réponse de l'État aux urgences sécuritaires, économiques et sanitaires. Le député Nicolas Metzdorf nous précise quels sont les points forts de ce rendez-vous.
Le dossier calédonien est dirigé depuis l'Élysée. Aujourd'hui, clairement, le chef de l'État nous a affirmé qu'il reprenait la main sur le dossier puisqu'il concernait pour lui une question régalienne de souveraineté de la France. Donc il veut piloter lui-même le dossier. La deuxième chose, c'est qu'il a prévu d'inviter les partenaires calédoniens en septembre pour une reprise des négociations et du dialogue sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. La troisième chose, c'est qu'il nous dit qu'il veut décaler les élections provinciales à 2025 et qu'il présentera une loi organique en ce sens, puisqu'il considère qu'il faut donner du temps à la discussion et que le temps n'est pas aux campagnes électorales en Nouvelle-Calédonie. Et il nous a fait un point final sur les urgences sécuritaires et économiques et sanitaires, qu'il allait garder le nombre de forces de l'ordre présentes pendant les JO en Nouvelle-Calédonie et qu'elles allaient être renforcées dès la fin des JO, que la réserve sanitaire serait mobilisé et qu'il allait faire un point avec Bruno Le Maire à Bercy pour que les aides soient mieux orientées.
Sur la demande précise que vous aviez faite concernant la transformation des prêts en subventions, il n'y a pas encore de réponse?
C'est dans les tuyaux, il y a une volonté en tout cas, surtout une compréhension du chef de l'État sur l'urgence économique de la situation. Et il sait très bien qu'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie ne peut pas faire face seule à la crise économique, donc c'était important pour nous d'être très pédagogue sur le sujet. Donc à chaque fois on a eu une écoute, alors bien sûr pour l'instant pas de promesses, mais en tout cas une volonté d'améliorer les choses.
Comment est-ce que vous arrivez à parler d'une même voix, les quatre parlementaires, alors que deux sont indépendantistes et deux ne le sont pas?
On parle d'une même voix sur l'urgence économique, sociale et même sécuritaire. On est d'accord là-dessus. Ensuite, on est d'accord sur une reprise du dialogue nécessaire et on demande au chef de l'État un calendrier sur lequel on pourrait se mettre d'accord, nous permettre de nous réunir et de continuer les négociations. Donc on va dire que sur les urgences calédoniennes, on est d'accord sur le fond et sur les discussions institutionnelles, on est d'accord pour remettre un calendrier et de la forme. On n'a pas, bien sûr, envisagé les questions de fond. J'ai redit ma conviction pour la Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes ont redit la leur. Mais l'important pour nous, c'était que le dossier soit repris en main et surtout qu'un tempo soit donné et qu'on crée les conditions de la négociation parce qu'aujourd'hui, c'était quand même reparti en stand-by.
Et c'est le sénateur Georges Naturel qui avait pris l'initiative de ce rendez-vous collégial des parlementaires calédoniens dans le contexte particulier que connaît le territoire.
C'est important, je pense, que les parlementaires, dans cette période que nous vivons en Calédonie, puissent se retrouver devant le président de la République pour aborder des sujets très concrets, ponctuels aujourd'hui, mais surtout peut-être dans une perspective plus longue, quoi. D'abord, on lui a dit, et on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'il faut à tout prix qu'on retrouve la liberté de circulation et que la sécurité soit un des premiers points. Alors, le président de la République, il met les moyens en termes de force de l'ordre, c'est sûr. Et puis, il y a notre rôle, en tant qu'élus calédoniens, quel qu'en soit, d'essayer d'apaiser dans nos discours et puis peut-être d'aller discuter sur le terrain pour faire comprendre aux uns et aux autres que c'est pas sur les barrages qu'on pourra régler le problème politique de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est la première chose, tout en travaillant effectivement sur la relance économique, l'accompagnement des chômeurs. Donc ça, sur cette partie-là, qui est déjà travaillée par le gouvernement, même s'il gère les affaires courantes, le président nous a assuré qu'il le suivra.
Georges Naturel qui confirme que des décisions politiques ont également été annoncées par le président de la République.
Il envisage de réunir les forces politiques de Nouvelle-Calédonie au mois de septembre pour aborder le sujet de l'avenir institutionnel. Donc il s'est engagé déjà à reporter les élections provinciales parce que ça c'est un élément important, on ne peut pas les tenir avant le 15 décembre. Donc de toute façon, on a tous convenu qu'il fallait rapidement les reporter. Ensuite, cette réunion qu'on ferait au mois de septembre permettra de valider le cahier des charges d'un groupe de dialogue pour effectivement aborder les sujets importants de l'avenir institutionnel, du corps électoral, enfin tous les sujets qu'on connaît.
C'est le président de la République lui-même qui gère le dossier calédonien aujourd'hui.
Ah, effectivement, je crois que le gouvernement aujourd'hui qui gère les affaires courantes, il y a des aspects un peu financiers. Il y a la ministre de l'Outre-mer qui vient passer un jour et demi en Nouvelle-Calédonie dans le cadre du travail qui est fait par les administrations sur la reconstruction. Mais l'arbitrage politique aujourd'hui et le suivi du dossier politique, c'est bien le président de la République qui le fait.
Un rendez-vous à l'Élysée que le député indépendantiste Emmanuel Tchibaou estime pour sa part utile pour évoquer les priorités de la Nouvelle-Calédonie.
Nous, on a tenu à ce qu'on fasse un rendez-vous à 4 parce que c'était important que l'ensemble des parlementaires soient présents et puis fassent front sur la situation qui est assez dramatique au pays, tant sur le plan économique que social. Et après, rappeler les obligations que l'on a au vu de notre mandat et rappeler celles également de l'État dans l'effort de solidarité nationale. Donc c'est ce qui a présidé à notre demande de rendez-vous que le président a bien voulu accepter au vu de son planning chargé. Les thématiques qui ont été évoquées, c'est la reprise des discussions d'une réunion qui se tiendrait après le congrès du FLNKS. L'idée, c'est aussi de donner des gages de confiance auprès de chacun des partenaires, après que chacun consulte ses bases sur les thématiques du corps électoral, des élections provinciales et puis du nouveau projet de société à construire, des perspectives institutionnelles. Mais bon, ça c'est dans la perspective à moyen terme. On est déjà bien pris sur les problématiques du quotidien.
Emmanuel Tchibaou qui tient à préciser que Robert Rowy et lui-même ne sont pas mandatés par les indépendantistes pour amener les discussions, mais seulement pour engager des perspectives de réouverture et que c'est le FLNKS qui désignera ses émissaires et précisera la feuille de route sur laquelle ils iront aux discussions. Le sénateur indépendantiste Robert Rowy estime, lui, qu'une telle initiative a permis de mettre les choses sur la table.
C'est une prise de contact pour examiner la situation d'abord, les urgences, et puis ensuite reprendre contact avec l'État, parce que c'est le partenaire principal dans ce qui se passe au pays.
Il a été surpris que vous soyez 4 représentants les 2 légitimités de la Nouvelle-Calédonie à le rencontrer ensemble.
Ce sont des choses qu'on aurait pu faire depuis belle lurette, mais on a pris nos responsabilités, nous, en tant que parlementaires, pour parler, parce qu'on va parler du même pays. Au lieu que chacun aille chacun de son côté, il vaut mieux qu'on discute, qu'on met ensemble les choses sur la table, et qu'on a fait ce matin. L'essentiel, c'est ce qui va se faire. Et donc, on a demandé au président de la République qui lui-même va reprendre en main le dossier calédonien et le gérer directement lui avec des bases de discussion qui seront établies.
À des propos recueillis hier soir par Elisabeth Noir.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Approuvez-vous le report à 2025 des prochaines élections provinciales? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, 99% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent choqués par la présence de Michael Forest à la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques de Paris alors qu'il était la semaine dernière à Bakou pour le congrès des colonies françaises organisé par l'Azerbaïdjan. Ils ne sont que 1% à dire que cela ne les choque pas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain, samedi, pour la réponse à notre question du jour. La Nouvelle-Calédonie en état d'urgence socio-économique, c'est le cri d'alarme du groupe UC, FLNKS et Nationaliste au lendemain de la réunion de la mission Crise Mai 2024. Elle s'est tenue au congrès de la Nouvelle-Calédonie, Jean-François Baudin.
Le groupe UC, FLNKS et Nationaliste qui joue aux pompiers pyromanes en souhaitant attirer l'attention de tous sur la situation financière inquiétante de la Nouvelle-Calédonie. Il explique que la mission d'information Crise Mai 2024 a mis en lumière l'ampleur des conséquences désastreuses. Il énumère les 724 entreprises directement impactées avec des dégradations importantes de leur activité et les 1233 entreprises directement affectées par la crise ou encore les difficultés d'Aircal et d'Aircalin. les perturbations des transports maritimes et routiers et la mise en chômage partiel au total de milliers de salariés. Le groupe UCFLNKS et nationaliste souligne que par ailleurs, la situation actuelle de la métropole limite sa capacité à fournir un soutien financier substantiel à la Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions, il affirme, et je cite, qu'une intervention extérieure est désormais indispensable pour sortir la Nouvelle-Calédonie de cette impasse, mais qu'elle ne pourra être effective et efficace qu'avec l'autorisation et la collaboration active de l'État. En conséquence, il appelle à une reconnaissance urgente de la gravité de la situation financière de la Nouvelle-Calédonie par l'État français, en sollicitant par exemple une mission d'évaluation de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de l'ONU, du Fonds monétaire international ou du Forum des îles du Pacifique. Il réclame également l'implication de partenaires extérieurs capables de fournir une aide financière et technique pour stabiliser et redresser notre économie. Il souhaite enfin la mise en place de réformes structurelles nécessaires pour garantir notamment la pérennité économique de la Nouvelle-Calédonie. Le président du groupe UCFLNKS et nationaliste, Pierre-Chanel Tutugoro, qui signe ce communiqué, appelle les institutions concernées à agir de toute urgence avant que la situation ne s'aggrave davantage. Il en va, conclut-il, de l'avenir et du bien-être de notre population.
Merci Jean-François Bodin. Et parmi les secteurs particulièrement touchés par cette crise, il y a évidemment le nickel. Et Eramet a communiqué la nuit dernière sur la situation de la SLN, Isabelle Pelletier.
Oui, en effet, La Donyambo, la production minière s'est établie à 1,4 mégatonnes humides au premier semestre 2024, en baisse de 51% par rapport au premier semestre 2023, compte tenu de conditions d'exploitation extrêmement difficiles. Eramet rappelle que depuis les émeutes, la production est totalement à l'arrêt et que la SLN a subi d'importants dégâts sur ses installations, notamment sur les sites de Thio et de Kouawa. En conséquence, les exports de minerais de nickel de la SLN ont été limités à 0,4 mégatonnes humides sur le semestre, soit moins 68% par rapport à 2023. La production de ferronickel est également en baisse de 14% par rapport à 2023. Toujours la baisse des volumes de ferronickel et d'exportation de minerais, ainsi qu'un effet prix défavorables ont été en grande partie compensés par un meilleur contrôle des coûts ainsi que par une baisse des prix de l'énergie. En conséquence, la SLN a généré un free cash flow négatif à hauteur de 139 millions d'euros sur le semestre, soit près de 17 milliards de nos francs pacifiques. En Nouvelle-Calédonie, la SLN continue à faire face à des défis majeurs exacerbés par les événements en cours depuis le mois de mai. Sa situation financière est aujourd'hui extrêmement critique. L'activité de la majorité des sites miniers est suspendue et l'usine de Donyambo tourne à puissance minimale technique afin de préserver l'intégrité des installations industrielles conformément aux procédures en vigueur. Eramet réitère enfin sa décision de ne pas apporter de nouveaux financements à la SLN tout en poursuivant son soutien opérationnel.
Vos rendez-vous politiques sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, c'est le maire de Dimbé à Johan Lecourieux qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur la situation de sa commune qui a été durement touchée par l'insurrection que connaît la Nouvelle-Calédonie. Alors quel bilan fait-il de la situation? Comment explique-t-il ce déchaînement de violence? Comment envisage-t-il la reconstruction? Et le vivre ensemble est-il encore possible? Ce sont quelques-unes des questions qui lui seront posées ce midi. Johan Lecourieux, maire de Dimbéa et membre du gouvernement invité de Transparence. C'est donc à suivre juste après notre édition de la mi-journée. En attendant, il est 6h passé de 43 minutes après la publicité, l'actualité judiciaire avec une enquête ouverte après la violation de la sépulture du grand chef Hatay.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Réouverture du marché municipal de Boulary de 7h à 13h, les mercredis, jeudis, samedis et dimanches, et le vendredi de 7h à 17h en continu. Retrouvez son vide-grenier le dernier samedi du mois et son mini-marché Broussard ce dimanche 28 juillet.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
L'actualité judiciaire a une enquête ouverte pour violation de sépulture. C'est ce qu'annonce le procureur de la République après la profanation du mausolée du grand chef Ataï, mais aussi du vol des reliques commis dimanche soir à La Foix. Et il n'y a encore aucune interpellation dans ce dossier, Isabelle Pelletier.
C'est une patrouille de gendarmerie de La Foix qui a fait les premières découvertes des émanations de fumée provenant du mausolée du grand chef Ataï et une plaque commémorative brisée. Les constatations sur les lieux permettent d'établir que les auteurs de la profanation avaient ouvert le socle du tombeau avant de dégrader les deux cercueils du grand chef et de son compagnon, explique le procureur de la République. Les deux crânes ont également été volés. Enfin, des morceaux de bois ont été incendiés à l'aide d'un accélérant de manière à se propager sur les cercueils, précise encore Yves Dupas. Des investigations de police technique et scientifique ont d'ores et déjà été conduites par un technicien en identification criminelle au moyen de multiples prélèvements sur les lieux et les enquêteurs recueillent tous les témoignages utiles permettant d'orienter cette procédure, conclut le procureur de la République. L'enquête est diligentée par la brigade de gendarmerie de La Foix. Aucune interpellation n'est encore intervenue à ce stade sur, je cite, des agissements intolérables qui portent une atteinte grave à un haut lieu du patrimoine de la Nouvelle-Calédonie, à la mémoire collective, comme un symbole fort de la réconciliation entre les communautés du territoire. Fin de citation.
Et j'ajoute que les auteurs des faits encourent une peine de 2 ans de prison et une amende de 3 600 000 francs. Le procureur dément encore, par ailleurs, formellement les allégations mensongères circulant sur les réseaux sociaux impliquant les forces de l'ordre dans ces allégations mensongères. Les auteurs de ces publications diffamatoires s'exposent à des poursuites pénales, termine Yves Dupas. Yves Dupas, qui sera d'ailleurs notre invité tout à l'heure à 7h30. Où en sont les suites judiciaires des émeutes? La justice fait-elle face aux nombreux dossiers à traiter? Et quelles sont les suites de l'enquête diligentée par le parquet à l'encontre des responsables de la CCAT? Nous ferons le point sur toutes ces questions ce matin avec le procureur de la République. Et puis la salle de prière du centre bouddhique de Magenta a été incendiée hier en début d'après-midi. Un incendie qui a été déclaré aux environs de 13h. C'est d'ailleurs la 5e fois que le temple est victime des flammes. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes puisque les pompiers sont intervenus rapidement de 14h à 15h. Écoutez le témoignage de la présidente de l'association bouddhique de Nouvelle-Calédonie, Isabelle Jiang.
Il n'y a pas mot de quoi dire parce que c'est 40 ans. J'ai brûlé la salle prière. Avant, j'ai brûlé la salle polyvalente où les victimes étaient, la salle des enfants qui fait ça, apprendre des choses. Voilà, c'est le salle principal, c'est la salle polyvalente. Voilà, c'est tous les deux sont brûlés. Maintenant, on vient de nettoyer un peu de l'eau pour sortir de poussière dans la salle rivière, dans le camp public.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou au chapitre des exactions à signaler ce matin. La salle de sport de Forme Plus à Normandie a été incendiée pour la 10e fois hier soir vers 18h. Un pompier a été légèrement blessé au cours de l'intervention. Et puis toujours à Auteuil, à hauteur du Leader Price, la route serait jonchée de nombreux déchets ce matin. Soyez prudents. Et puis la situation des habitants du Mont-d'Or Sud, toujours au cœur des préoccupations. Ils sont toujours isolés, avec comme seul moyen de transport les navettes maritimes. Cela crée des difficultés, notamment pour les établissements scolaires. Et l'association des citoyens mondoriens voulait attirer sur ce point l'attention du vice-recteur. L'association l'a rencontré hier en fin de matinée. Et à l'issue de cet entretien, le président Florent Perrin avait le sentiment d'avoir été entendu.
On a un vice-recteur qui est très attentif à la situation du sud du Mont-d'Or. On a pu nous lui donner des éléments qu'il n'avait pas aussi. Par exemple, que c'est très compliqué avec les navettes. Donc il ne faut pas imaginer un système pour nos étudiants et nos profs avec les navettes. Donc il faut plutôt imaginer quelque chose sur place, là-bas au sud du Mont-d'Or, qui pourrait s'organiser. Donc très attentif, très à l'écoute avec son équipe. Donc il est effectivement dans la réflexion pour trouver la meilleure solution pour nous, dans une situation qui est évidemment inédite, même pour lui, et qui demande beaucoup d'adaptation. Donc il va nous faire des propositions d'ici la semaine prochaine pour qu'à la rentrée d'août, on puisse avoir quelque chose de beaucoup mieux qu'aujourd'hui pour nos enfants.
Et ce sont les élèves et les professeurs du collège de Boulary et du lycée de Saint-Michel qui sont les premiers concernés par ces difficultés de circulation.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h49.
L'association des entrepreneurs Kanak souhaite mettre en place un projet pilote pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans les quartiers nord de Nouméa. Ils présentaient dans une conférence de presse hier leurs axes d'action pour les mois à venir. Mesure phare de leur programme, ce projet pilote qui débutera à Tindu et qui aura pour but de remettre les jeunes des cités au travail en les accompagnant dans la création de petites entreprises. Les précisions de Jules Denkwang, il est le trésorier de l'AEK.
Si on arrive à identifier des jeunes qui veulent se lancer dans des petites activités, nous au niveau de l'AEK, on peut apporter cette expertise pour pouvoir monter disons, des petits projets. Donc là, on a convenu à ce que ça soit le quartier de Tindu qui soit un petit peu la zone pilote. À partir de là, pouvoir étendre et même exporter en tribu. Il faut faire d'abord un état des lieux en amont, quoi. C'est-à-dire discuter avec ces jeunes, les interroger, ce qu'ils veulent faire très exactement, etc. Et il y en a qui sont talentueux, qui veulent aller de l'avant, et ce sont ces gens-là, je pense, avec qui on pourrait travailler.
Autre proposition, la création d'un organisme de formation pour encourager et accompagner l'entrepreneuriat kanak qui devrait être mis en place avant la fin de l'année. Il est 6h50, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole évidemment marquée par les Jeux Olympiques et ce dîner, 60 chefs d'État, de sportifs mais aussi de femmes et d'hommes d'affaires qui sont invités par Emmanuel et Brigitte Macron.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Colmy, premier réseau de chauffeurs privés en Nouvelle-Calédonie. Commande immédiate, réservation à l'avance, suivi du véhicule et tarifs attractifs. En quelques clics, vous commandez, on vous emmène. Client, ne perdez plus votre temps. Chauffeur, complétez votre activité. N'attendez plus, inscrivez-vous sur colmy.nc et téléchargez l'application. Colmy, votre chauffeur privé en toute simplicité.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Une soixantaine de chefs d'État, de sportifs, mais aussi de chefs d'entreprise du monde entier sont invités par Emmanuel et Brigitte Macron. Il s'agit d'un dîner de prestige sous la pyramide du Louvre, devant un menu préparé par Alain Ducasse, Isabelle Pelletier.
Oui, avant de sonner l'ouverture des Jeux Olympiques, demain matin pour nous, place au grand ballet diplomatique des chefs d'État et de gouvernement, des grands patrons, des athlètes. La liste complète des invités à ce dîner n'a pas été communiquée par l'Élysée, qui insiste sur le caractère privé de l'événement. Quelques noms ont quand même filtré. La première dame américaine, Jill Biden, sera bien présente, tout comme le couple royal d'Espagne, Felipe VI, et son épouse, la reine Laetitia, le président israélien Isaac Herzog, ainsi que son homologue argentin, Javier Milei, tous deux reçus demain à l'Élysée par Emmanuel Macron, devraient également faire partie des invités. Plusieurs milliers de policiers seront mobilisés pour sécuriser ce dîner concocté, donc par le chef étoilé Alain Ducasse.
Et puis les différents chefs d'État et de gouvernement seront à nouveau conviés à l'Élysée samedi matin pour nous, pour une grande réception organisée par Emmanuel et Brigitte Macron. Tous se rendront ensuite en navette sur le site de la cérémonie d'ouverture. Et puis un vaste coup de filet en Belgique. 7 personnes soupçonnées de préparer un attentat terroriste ont été arrêtées. 14 perquisitions ont été menées dans 9 villes à travers tout le pays. Aucune précision à ce stade, ni sur les lieux, ni sur la cible visée, selon le parquet fédéral belge. Mais pour Claude Moniquet, spécialiste des questions liées au terrorisme, un lien avec les Jeux Olympiques de Paris n'est pas à exclure.
Le parquet nie tout lien avec les Jeux Olympiques et explique que c'était une mesure de précaution et que les cibles choisies par les terroristes n'étaient pas choisies. Mais j'ai eu 2 sources qui m'ont dit que les personnes arrêtées étaient d'origine centra-asiatique ou russe et que c'était des gens qui étaient liés à l'État islamique au Khorassan et qui préparaient ou envisageaient de préparer une action terroriste contre les Jeux Olympiques. Maintenant, reste à déterminer quel était le niveau de préparation de ces plans et quelles étaient les cibles précises de ces plans. Est-ce que c'était la cérémonie d'ouverture? Est-ce que c'était le grand public à un autre moment? Est-ce que c'était une compétition particulière? Est-ce que c'était une délégation particulière, par exemple la délégation israélienne? Ça, bien entendu, à ce stade, on n'en sait rien.
À Claude Moniquet, spécialiste des questions liées au terrorisme, interrogé par nos confrères et partenaires d'Europe 1. Il est 6h54, justement, on va parler des JO côté terrain. Dans un instant, avec la page sport en compagnie de Léo Fichou, on verra tous des derniers résultats de la nuit. Il y avait notamment du rugby à 7, du tir à l'arc, du handball, mais aussi du football.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Koné.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Vous n'avez pas le temps? Vous avez envie de manger sain et équilibré? La Niçoise vous accompagne. Commandez, c'est livré. Plusieurs formules adaptées à tous les budgets à partir de 750 francs. Plus d'infos sur notre site et sur Facebook. La Niçoise, votre service de gamelle Vallée des Colons.
RRB, première radio d'information.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on part du côté de Paris, bien entendu, avec les résultats de la nuit aux Jeux Olympiques. Et on démarre avec du rugby à 7, Léo Fichou. C'est sur le point de se terminer pour l'équipe de France.
Ça se termine à l'instant, le dernier essai d'Antoine Dupont. Une très bonne nouvelle, donc, les Bleus qui sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi olympique dans une ambiance de folie au Stade de France. Les joueurs de Jérôme Daré qui viennent de battre l'Argentine. Alors la transformation n'est pas encore tapée, mais on peut le dire, l'équipe de France a affrontera l'Afrique du Sud en demi-finale. Les Sud-Africains qui ont battu la Nouvelle-Zélande 14 à 7 juste avant le quart de finale français. Deux quarts de finale qui arrivent. À 7h, on aura le droit Irlande-Fidji et à 7h30, Australie-États-Unis.
Et puis cette nuit également, Léo, du tir à l'arc.
L'équipe de France masculine de tir à l'arc, oui, qui s'est classée deuxième des qualifications et disputera les quarts de finale. Plus tôt, les femmes ont terminé cinquième des qualifs. Et à noter que la Sud-Coréenne Lim a battu le record du monde. Elle a cumulé 694 points sur 720 possibles. Malheureusement pour elle, personne n'a pu voir cet exploit puisque les qualifications ne sont ni filmées ni diffusées à la télévision.
Et enfin, en handball, ce matin, les Françaises ont battu la Hongrie. Et
oui, elles étaient sur le parquet de l'Arena Paris Sud 6 au cœur du parc des expositions de Versailles et les joueuses d'Olivier Crumble se sont imposées 31 à 28. Prochain match pour les handballeuses, ce sera lundi matin à 6h contre les Pays-Bas. Et puis, les féminines de l'équipe de France de football sont-elles à Lyon pour affronter la Colombie? La rencontre a débuté à 6h ce matin. C'est la pause. Les Bleus mènent 3 buts à 0 grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto et un but de Kenza Dali.
Et tout au long de cette quinzaine olympique, eh bien nous vous proposons de jouer sur Radio Rythme Bleu.
De mémoire de Jeux Olympiques avec les stations Shell et Pacifique. Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
Deux mémoires de Jeux Olympiques pour gagner chaque jour un bon de carburant de 5000 francs grâce à notre partenaire. Le principe est simple. Chaque jour, dans le journal du matin et celui de la mi-journée, nous vous posons une question sur l'histoire des Jeux Olympiques. Et ceux qui ont écrit la légende d'ailleurs de ce sport, vous envoyez votre réponse au 31-46 jusqu'à 17h, qui est l'heure du tirage au sort. Et dans le journal du soir, vous aurez bien sûr la réponse à la question du jour et surtout le nom du gagnant. Et c'est parti donc pour le premier jeu avec notre première question. Parmi ces athlètes françaises, laquelle a remporté le plus de médailles d'or au JO? Si vous pensez que c'est Laura Flessel, vous tapez JO1. Si c'est Félicia Ballanger, vous tapez JO2. Si c'est Laure Manaudou, vous tapez JO3. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Je répète la question, en plus c'est le premier jeu. Parmi ces athlètes françaises, laquelle a remporté le plus de médailles d'or au JO? Si c'est Laura Flessel, vous tapez JO1. Si c'est Félicia Ballanger, vous tapez JO2. Et si c'est Laure Manaudou, vous tapez JO3. Le tout au 31-46. Voilà, vous avez jusqu'à 17h pour envoyer votre réponse. C'est l'heure où aura lieu le tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et le gagnant remporte donc, je vous le rappelle, un bon d'essence de 5000 francs offert par notre partenaire.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.
Et avant de conclure ce journal et de passer à la météo, je vous donne le score final puisque c'est bien terminé pour la France contre l'Argentine. On parle de rugby à 7 puisque la France est qualifiée pour les demi-finales en s'imposant 26 à 14.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et dans l'ensemble, Thierry, le soleil revient pour aujourd'hui.
Oui, ce matin, le temps évolue peu, mais avec toujours des averses qui circuleront sur l'extrême sud, l'île des Pins et aux Loyautés, mais un ciel bien dégagé sur les autres régions. La Lisée orientée sud-est s'établira autour des 20 nœuds, avec localement des rafales à 30 nœuds, ce sera sur les Loyautés et l'Est. Voyons voir rapidement pour cet après-midi, le soleil sera bien présent sur l'ensemble du territoire, le vent, lui, sera orienté au sud-est, il restera soutenu, il sera voisin des 20 nœuds sur l'extrême sud, il soufflera entre 20 et 25 nœuds et des rafales prévues à 30 voire 35 nœuds sur les autres régions. Les températures remontent un peu entre 22 et 25 degrés du sud au nord.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal. Je rappelle qu'il sera disponible en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur sera signé Jean-François Bodin. Et ensuite, vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.